Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du TFC, Toulouse Football Club, en 5 parties. Partie 1, de la création du TFC en 1937 à sa victoire en Coupe de France en 1957. Deux clubs dominent le football toulousain avant la Première Guerre mondiale, le Stade olympique des étudiants toulousains et le Stade olympien Vélosport de Toulouse. Les étudiants se muent en Stade toulousain en 1908 et dans l'entre-guerres est nettement plus favorable aux manières de ballon ovale, le rugby. Toutefois, l'idée de créer un grand club professionnel à Toulouse émerge rapidement. Le 20 mars 1937, dans une salle du 9, place des Arcades, au Capitole, naît le Toulouse Football Club, dont les couleurs sont rouge et blanc. Monsieur Loriol en est le président. Le club est admis à disputer le championnat professionnel de Division 2 en juillet 1937. Le stadium, 10 000 places, est mis en chantier en cette même année 1937. L'ouverture, qui sera retardée par la guerre, aura lieu en 1949. Le premier entraîneur-joueur de Toulouse est l'ancien capitaine de l'équipe de France, Pierre Casal. Le gardien Roux et les attaquants, Camarata, Laurent et Gélinec, sont les fers de lance de la jeune équipe. En attendant l'achèvement du nouveau stade, dont les travaux ont du retard et qui n'est pas prêt pour la Coupe du Monde 1938, le club joue sur le terrain du TOEC, futur stade Chapou. Les matchs de la Coupe du Monde seront également déplacés sur le terrain du TOEC, à l'ancien parc des sports. Pour leur première saison, les Rouges et Blancs terminent à une honorable 7e place de 2e division. En Coupe de France, le TFC atteint le stade des 8e de finale, l'Olympique Lillois met fin à cette campagne par un but à zéro. Mais la guerre intervient. De nombreux joueurs s'exilent à Toulouse, dont le premier buteur de la Coupe du Monde, Lucien Laurent, et le club devient une place forte du football français. Au cours de la saison 1940-1941, le TFC, renforcé par les Raxigman, Raoul Diane, Maurice Dupuis et Mario Zatelli, ainsi que Lucien Laurent, enlèvent la finale de la Coupe de France de zone non occupée face à Saint-Étienne, 1-0 but de Zatelli. Le TFC est reversé en Division 2 à la reprise des compétitions à la fin de la guerre. Il recrute René Vignal. Vignal est titulaire en tant que gardien de but dans l'équipe toulousaine lors de la reprise de la Division 2 en 1945-1946 et le TFC est promu en première division. En 1947, après une première saison réussie en Division 1, Vignal est transféré au Racing Club de France, l'un des plus grands clubs français de l'époque, contre 1,5 million de francs, une somme importante pour l'époque. À partir de l'été 1949, le club toulousain évolue enfin au Stadium, dont les travaux avaient été interrompus par la guerre et pouvant accueillir désormais jusqu'à 35 000 spectateurs. 17e au classement final en 1951, les Toulousains retrouvent l'enfer de la Division 2. Mais à l'issue de la saison 1953, les Toulousains sont sacrés champions de Division 2 et accèdent en Première Division. De retour en Première Division, Jules Bigot, ex-international et deux fois vainqueur de la Coupe de France, prend en main l'équipe. Sur leur lancée, les Toulousains jouent les premiers rôles en championnat, se classant 4e en 1954. La saison 1954-1955 voit un combat acharné pour la première place entre Toulouse et le Stade de Reims. Le jeudi 3 février 1955, 30 000 spectateurs envahissent les tribunes du stadium, 2 heures avant le coup d'envoi du choc TFC Reims. L'ailier toulousain Valorizek ouvre la marque pour Toulouse. Le TFC se dirige alors tout droit vers une victoire importante quand l'arbitre accorde un pénalty au Rémois. Raymond Coppa le transforme et les deux équipes se séparent sur ce score nul de 1-1. Finalement, les Rémois sont sacrés champions de France, les Toulousains ratant le titre et une place en Coupe des champions, nouvellement créée pour 4 points. 7e en 1956, puis 8e en 1957, le TFC a bien du mal à suivre les grosses cylindrées pour le 20e anniversaire du TFC professionnel. Mais pour fêter dignement cet événement, les Toulousains accèdent en finale de la Coupe de France. Et le 26 mai 1957, Toulouse est victorieuse en finale de la Coupe de France de football. Le Toulouse Football Club, créé en 1937, est enfin récompensé de ses efforts. Mais la fête est gâchée par un attentat au sortir du stade. Sport et politique se mêlent dans un récit que nous conte Denis Beau dans son ouvrage « 1957, le TFC au sommet du football français ». Quoi de mieux, 20 ans après la création du TFC, qu'une finale en Coupe de France ? Quelques 3000 Toulousains font le déplacement à Paris. La rencontre a lieu au stade Yves du Manoir à Colombes, au nord-ouest de la capitale. C'est le plus grand de France. L'infrastructure sportive a été construite en 1924 pour recevoir les épreuves des Jeux Olympiques d'été. Puis elle a été agrandie en 1938 pour accueillir la Coupe du Monde de football qui vit pour la seconde fois la victoire de l'Italie mussolinienne. La finale de 1957 revêt un caractère particulier. C'est le 40e anniversaire de la Coupe de France et la Fédération française de football a voulu marquer l'événement. De plus, le contexte politique est difficile et la rencontre sportive peut symboliser une cohésion souhaitée de la nation. La radiodiffusion télévision française innove. Non seulement elle filme le match, mais elle le retransmet en direct et en intégralité. C'est la première finale de Coupe de France visible par les chanceux qui disposent d'un poste de télévision, presque 700 000 foyers. Il s'agit ainsi de perfectionner les techniques du direct dans l'optique de la future Coupe du Monde de football prévue en Suède en 1958. Pour les autres, ils écouteront la célèbre voix du commentateur Georges Briquet à la radio. Ce 26 mai 1957, le soleil est resplendissant sur la région parisienne, mais des bourrasques de vent rafraîchissent quelque peu l'atmosphère. Il est presque 15 heures, 43 125 spectateurs sont présents. Les joueurs des équipes de Toulouse et d'Angers foulent la pelouse, saluent le public et la tribune officielle, où est attendu le président de la République, René Coty. Celui-ci arrive à la dernière minute, retenu par des réunions de la plus haute importance. Il doit nommer un nouveau président du Conseil dans le climat d'inquiétude soulevé par la dégradation de la situation en Algérie. Les deux capitaines, René Plemeydine pour le TFC et Jules Broglia pour le SCO d'Angers, se serrent la main devant l'arbitre anglais Jack Klug. Celui-ci apporte à cette finale toute la tradition du pays qui a inventé les règles du football. Le toast, ou tirage au sort, donne au TFC le choix du terrain. René Plemeydine décide de jouer dans le sens du vent. Énorme avantage. Cette finale révèle être une partie de campagne pour les joueurs du TFC. Très affûté, il domine largement une équipe angevine aux abois. À la 10e minute, l'international René Derordre donne le ton en ouvrant le score. Il est suivi de peu par Abdelhamid Bontchouk. Finalement, le score à la mi-temps est de 3-1 pour Toulouse. L'entraîneur Jules Bigot est aux anges. Son équipe n'a jamais été aussi efficace. Il est fier de ses joueurs et sent qu'ils peuvent réaliser un exploit. Les adversaires, eux, sont en petite forme. À l'image de son gardien de but, Eugène Fragassi, qui multiplie les sorties hasardeuses, l'équipe ne parvient pas à trouver la confiance. À 16h, les deux formations reviennent sur le terrain. Le TFC conforte son assise en début de seconde période avec une marque de 4-1 à la 61e minute. La partie est facile, trop facile. Le TFC se démobilise, les joueurs ont déjà la tête dans les nuages. Preuve année, le défenseur toulousain Richard Boucher, totalement déconcentré, marque contre son camp à la 83e minute. L'espoir renaît du côté angevin et le match s'emballe. Une course-poursuite effrénée s'ensuit. Les joueurs s'échappent, les buts s'envolent. Di Loreto réplique pour Toulouse à la 85e minute, Bourigeau pour Angers à la 88e minute, Brahimi pour Toulouse à la 89e minute, 4 buts en 6 minutes. Et la rencontre se termine ainsi par la victoire du TFC sur le score de 6-3 avec un spectacle de qualité où le beau jeu était toulousain. 9 buts inscrits en 90 minutes, c'est un record pour une finale. Enfin, Toulouse triomphe à Paris et de manière éclatante. Les Angevins viennent féliciter leur adversaire. L'infortuné Eugène Fragassi, selon le Figaro, en pleurs, congratule le gardien de but toulousain Guy Roussel. L'équipe du TFC se rend à la tribune officielle où René Coty remet la coupe au capitaine Plemeydine. Il est porté en triomphe par ses coéquipiers lors du traditionnel tour d'honneur. C'est le sourire du défenseur qui est immortalisé par les photographes de l'hebdomadaire Miroir Sprint pour illustrer la victoire du TFC. Mais les héros ne sont pas forcément ceux que l'on voit sur les clichés des journaux. Les véritables artisans de la victoire, les Algériens Abdelhamid Bounchouk et Saïd Brahimi, qui ont étincelé pendant la rencontre, sont laissés dans l'ombre. On choisit de donner une image lisse de l'équipe, de ne pas souffler sur les braises en mêlant sport et politique. Pourtant, bientôt, le contexte colonial va s'immiscer dans l'arène sportive. La réalité reprend vite ses droits. La trêve symbolique que représente un match de football s'achève et se révèle une fiction. Les spectateurs du stade de Colombes, enivrés par la prestation des Toulousains, repus de tant de buts marqués, quittent les tribunes et se dirigent tranquillement vers la sortie. La loge officielle se vide également. Les voitures attendent les invités prestigieux. René Cotir accompagne ses hôtes, les salue, poignée de main, promesse de rendez-vous. Il regagne la voiture qui l'attend, rue Paul Bert. C'est au milieu de ce cortège d'un dimanche après-midi finissant que le drame surgit. À 17h30, une détonation retentit, suivie de cris et de confusion parmi les gardes du corps. René Cotir est-il touché? A-t-on voulu attenter à sa vie à cause des affaires algériennes? Une rumeur grandit qui le suppose mort. En fait, sa voiture est déjà partie. Cependant, le corps d'Ali Chekal gît par terre dans un bain de sang, abattu d'une balle dans le dos. Il décédera lors de son transport à l'hôpital de Nanterre. Ali Chekal est un ancien vice-président de l'Assemblée algérienne qui a pris fait et cause pour l'Algérie française. Sa dernière mission officielle l'avait amené à New York en février 1957 avec la délégation française à l'ONU. Il siégeait aux côtés de nouveaux États, le Maroc et la Tunisie, qui venaient d'être admis. Les débats avaient porté sur le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Ali Chekal est considéré par le FLN comme un traître à la cause algérienne. Le mouvement de libération qui a pris les armes depuis 1954 et multiplié les actions violentes sur le territoire algérien commet avec cet assassinat l'un des premiers attentats sur le sol de la métropole. Le meurtrier, Mohamed Ben Sadok, a assisté au match et a tenté de s'avancer vers la tribune des officiels où Ali Chekal, reconnaissable à sa séchia, se trouvait aux côtés de René Coty, de Maurice Papon, préfet régional à Constantine, d'André Roche, directeur général de la police municipale à la préfecture de police de Paris. Il n'a pu approcher le cortège qu'à la fin du match et a tiré une seule balle depuis la poche de sa veste. Arrêté sur le champ, il est transféré au quai des Orfèvres. Les caméras saisissent alors le visage du jeune homme. Il est calme et assume son acte. Il affirme avoir choisi de tuer Ali Chekal pour mettre fin à la vie d'un musulman trop proche des Français, un adversaire de l'Algérie. Selon lui, l'homme faisait partie de cette élite corrompue qui voulait maintenir le pays sous le joug colonial. Le Front de Libération Nationale revendique quelques jours plus tard l'assassinat qui fait partie d'une stratégie de représailles depuis le début de la bataille d'Alger. L'organisation veut instaurer un climat de peur en France comme celui qui prévaut en Algérie. Les activistes ont profité d'un relâchement de la sécurité autour d'un événement sportif pour s'attaquer à une personnalité politique. La presse consacre de nombreuses pages à l'acte que certains qualifient de terroriste. Le 12 juin, un nouveau président du Conseil est investi par l'Assemblée nationale. Maurice Bourgès-Monory succède à Guy Mollet. Le même jour, en Algérie, Maurice Audin et Henri Allais sont arrêtés et soumis à la question. Fin juin, Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, participe au 49e congrès du parti qui se tient à Toulouse. Il doit rendre des comptes devant les cadres de son parti sur sa gestion calamiteuse de la crise algérienne. Il n'est pas loin de perdre sa fonction. L'attentat éclipse l'exploit des Toulousains. Le quotidien La Dépêche du Midi, dans son édition du 27 mai, accorde d'ailleurs une plus large place à l'assassinat d'Ali Chekal qu'au titre remporté. Aucune festivité n'est organisée dans la ville rose, car les joueurs doivent déjà se préparer à une nouvelle échéance. Ils n'ont pas le loisir de profiter de leur guarnaissance. Trois jours après, ils rencontrent toujours au stade de Colombes l'Aston Villa Football Club, récent vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Le match est sans enjeu, mais c'est une belle occasion pour le TFC de se mesurer à un grand club européen. Ce match, qui devait être amical et glorifier l'amitié franco-britannique, se révèle être d'une rare violence. Les phases d'anti-jeu sont nombreuses, on est loin du moment de partage sportif attendu. Le reporter de l'Humanité signale que des coups furent échangés, tous les joueurs accoururent, la mêlée devint générale, et l'on vit même l'entraîneur toulousain faire le coup de poing. Un vrai pugilat. Le TFC s'impose finalement 2-1 dans un match crépusculaire et décevant. Quelle folle semaine pour le TFC qui a gagné la Coupe de France et se hisse au niveau des meilleures équipes européennes. Il bénéficie d'une large médiatisation, fait la une des magazines et reçoit les éloges de commentaires sportifs. Pendant ce bref moment, Toulouse devient la capitale nationale du football. Auréolée de son titre, l'équipe revient dans sa ville. Cependant, ce retour différé de quelques jours ne passionne guère les Toulousains en plein week-end de l'Ascension. L'équipe elle-même n'est pas au complet. Saïd Brahimi et René Deureur ont rejoint Nantes pour honorer leur sélection à l'équipe de France et disputer un match amical au stade Malakoff contre l'Islande. Le truculent gardien de but Guy Roussel, requis par ses obligations militaires, se doit quant à lui de regagner le bataillon de Joinville. L'arrivée du TFC à la gare Matabiau n'est pas préparée par les autorités locales. L'effervescence et le tumulte parisien semblent bien loin. Certains joueurs auraient pu imaginer une descente triomphale des allées Jean Jaurès jusqu'à la place du Capitole dans des voitures décapotables, fendant la foule en liesse. Rien de tout cela. Le dernier match de la saison est organisé le 7 juin au Stadium contre l'AS Saint-Étienne, l'équipe championne de France. Rencontre perdue par les Toulousains devant une assistance clairsemée. Déception, regret, incompréhension. Cela confirme pour certains que Toulouse, toute dédiée au rugby, n'est pas prête pour soutenir une grande équipe de football. Certes, quelques événements sont organisés. Une exposition sur l'histoire de la Coupe de France depuis sa création, avec des photographies, est présentée dans un magasin de la rue d'Alsace-Lorraine. Le trophée des vainqueurs est exhibé fièrement dans la vitrine de la cartoucherie Thunet, rue Gambetta, du 10 au 16 juin, première étape d'une longue série, espère-t-on, du côté du club. Mais ces festivités sont bien minces. Bientôt, cette coupe se couvre de poussière et son souvenir s'estompe peu à peu. En revanche, certains Toulousains ont sans doute suivi le procès de Mohamed Ben Sadok en décembre 1957, au cours duquel les intellectuels Germaine Tillon et Jean-Paul Sartre sont venus à la barre apporter leur soutien à la cause du FLN. Condamné à la prison à perpétuité, Ben Sadok sera libéré lors de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Pour finir, on signalera que des 11 joueurs de 1957, un seul est aujourd'hui survivant. Il s'agit du gardien de but, Guy Roussel, qui est devenu l'adjoint de Pierre Cahuzac. Les autres joueurs, Richard Boucher, qui a entraîné Blagnac et décédé en 2017, René Plemending, qui a entraîné Troyes dans les années 70, décède en 1998, Guy Nungesser, qui a entraîné Chaumont dans les années 1990, est décédé en 2013. Robert Bocchi, lui, est parti du côté d'Aix-Martigues, décède en 2012. On citera Pierre Cahuzac, qui amènera Bastia en finale de la Coupe de l'UEFA en 1978. Lui décédera en 2003 à Lavore. Les deux Algériens, Saïd Brahimi et Abdelhamid Bonchouk, eux ont rejoint en 1957 l'équipe du FLN. Abdelhamid Bonchouk deviendra directeur des sports du nouveau pays, l'Algérie. Quant à René Deureurdre, il deviendra entraîneur du Mans, il décède en 2008. L'Argentin Eduardo Di Loreto décédera en 2010. Il était donc revenu en Argentine comme Olis Raikkonen, le Finlandais, qui a rejoint son pays. Enfin, Jules Bigot, l'entraîneur mythique de l'équipe de Toulouse en 1957, deviendra entraîneur de l'équipe de France en 1954.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.